Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Danielle Yukudogde, une femme et une mère de trois filles. Elle est sexothérapeute, thérapeute de couple et familial et doula en banlieue parisienne. Elle accompagne des personnes, des couples et des familles de toute culture. D'origine malgache, malienne et française, elle a vécu en quartier populaire et au carrefour de multiples cultures. En consultation, elle reçoit des personnes issues de toute culture, dont des femmes étant afrodescendantes. Il lui arrive aussi d'accompagner des femmes qui ont subi une excision par le passé. Je la reçois aujourd'hui sur le podcast pour qu'elle puisse utiliser sa voix pour décoloniser la sexualité et la périnatalité. Danielle, bienvenue.
Merci. Bonjour Camille.
Bonjour. Alors quand j'ai découvert ton profil, je me suis dit « Waouh, cette femme, elle a des choses à dire et elle a surtout beaucoup de bien à transmettre ». Et tu m'as dit, quand je te demandais voilà, quelle thématique tu souhaitais aborder, tu m'as dit que tu souhaitais parler du fait de décoloniser la sexualité et la périnatalité. Alors, ma première question est, qu'est-ce que ça veut dire décoloniser la sexualité?
Alors, c'est une question très intéressante et on va dire qu'on rentre direct dans le vif du sujet.
On y va.
Décoloniser la sexualité et la périnatalité, à mon sens, c'est prendre un peu de hauteur concernant le prisme sous lequel on regarde, en fait, j'ai envie de dire, la vie de femme. Quand je parle de sexualité et de périnatalité, j'ai envie de dire, je parle de féminin tout court, en fait. Et aujourd'hui, moi, je vis en France, nous vivons en Occident, dans une culture occidentale, j'ai envie de dire une culture patriarcale. Et prendre un peu de hauteur pour voir comment ça se passe ailleurs, sans forcément légitimer ce qui se passe ailleurs, mais savoir que ça existe et ne pas faire culpabiliser la façon dont ça se passe ailleurs, c'est à mon sens déjà le premier pas. Ensuite, quand je parle de décoloniser, forcément, d'abord, je vais parler de colonisation. La colonisation, ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de France et de l'histoire d'autres pays, dont les pays d'Afrique. Et En fait, pour comprendre ce qu'est décoloniser la sexualité et la périnatalité, il faut comprendre quel impact ont eu ces moments d'esclavage, de colonisation, sur les peuples dont sont issues les personnes qui viennent de ces pays, en gros. Ça a eu des impacts forts en termes de sexualité, déjà, parce que pendant la colonisation, ne l'oublions pas, et aussi pendant l'esclavage, il y a eu des phases où les femmes ont été pour certaines violées, ont été pour certaines dénigrées dans leurs pratiques, ont été critiquées. Et aujourd'hui, nous, moi, j'en fais partie, j'hérite un peu de tout ce bagage. Et quand je regarde aujourd'hui le milieu de la périnatalité, le milieu de la sexualité, je vais mettre les mots, c'est un milieu blanc. C'est un milieu blanc dans le sens où on regarde, on définit la norme selon le peuple blanc et non pas selon le peuple noir et non pas selon le peuple indien ou chinois. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Parce que il fut un temps, par exemple, en Afrique, se passaient des choses, là je vais parler des femmes, il y avait des initiations, des écoles d'éducation sexuelle, etc. Pendant la colonisation, cela a été interdit et diabolisé.
Donc tu veux dire qu'il y a eu l'éducation sexuelle avant la colonisation, faite par des personnes noires, oui. Entre personnes noires, pour s'éduquer sexuellement, et que ça a été interdit quand ça a été colonisé. Ok.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques. Aujourd'hui, certaines peuvent nous paraître un peu farfelues.
Comme quoi, par exemple?
Ne plus être adaptées. Ben, il fut un temps, lors des initiations, il y a très longtemps, il y avait de l'excision. Pour moi, ce n'est pas un tabou de le dire. C'est important d'en prendre conscience.
Expliquez ce que c'est l'excision pour les personnes qui ne connaissent pas.
Alors l'excision, c'est une. Aujourd'hui, on le définit clairement comme une mutilation génitale féminine. C'est quelque chose qui a des impacts très négatifs, je le dis, mais je préfère l'introduire avant même de commencer. Mais l'excision, en fait, c'est une section, voire même parfois une suture du clitoris. Donc des parties génitales de la femme. Aujourd'hui, on définit ça comme une mutilation à viser d'ôter le plaisir de la femme. Mais par contre, là, je vais un peu choquer, il n'en était pas ainsi au commencement, au début de cette pratique. C'est-à-dire, avant, lorsque ça a été mis en place, et souvent lors des initiations, alors l'initiation, c'est ce qui correspond à peu près, grosso modo, je vais un peu grossir les choses, mais grosso modo, à la période de la puberté. À la période de la puberté, on prend une jeune fille qui s'apprête à devenir une jeune femme et on lui transmet certaines choses. Alors là, ce sont des femmes qui se mettent autour d'elle. Généralement, il y a plusieurs jeunes filles qui font leur initiation en même temps et à qui on inculque certains savoirs. De façon orale et pratique. Et il est vrai que pendant ces périodes-là, il fut un temps, il y avait des excisions. Est-ce que l'excision d'antan ressemble à l'excision d'aujourd'hui? Certains écrits disent que non.
D'accord.
Après, moi, je ne vais pas faire d'affirmation en disant « ce n'était pas comme ça ». Mais il est certain qu'au début, il n'en était pas, ça n'avait pas le même but.
Oui, c'était quoi l'intention? Est-ce que tu sais à travers les écrits ce qui était dit?
Alors, l'intention, c'était plus à visée spirituelle, dans le sens où on part du principe, dans l'Afrique d'antan, qu'il y a une énergie masculine et une énergie féminine. Le féminin et le masculin sont davantage des énergies avant d'être des genres, des sexes, etc. Et de ce fait-là, on partait du principe que dans le masculin, il y avait une part de féminin qu'il fallait, entre guillemets, comme ôter. Et chez le féminin, il y avait une part de masculin qu'il fallait ôter une fois qu'on arrive à l'âge de devenir homme ou femme.
Et donc là, en gros, ça serait du coup le clitoris aurait comme symbolique plutôt quelque chose de masculin, peut-être de parler.
Oui.
Peut-être. Hein, ça,
exactement.
C'est que des hypothèses, hein, peut-être, mais ok, donc qu'il faudrait ôter. Pour être quoi, complètement femme ou complètement homme?
Exactement, pour entrer pleinement dans son identité. Parce que l'initiation d'antan, c'était le moment où on reconnaît ce jeune garçon comme faisant pleinement partie de la communauté et devenant un homme. Voilà. Et pareil pour les femmes. Aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de dire, on a des récits de femmes, et y compris des données scientifiques, qui permettent de comprendre que cette pratique est obsolète et néfaste. Donc, bien évidemment qu'il faut pleinement cesser cela. Mais moi, j'ai un discours assez nuancé, dans le sens où je ne vais pas dire que c'est un acte qui, de base, était barbare. C'est un acte qui avait un autre but. On peut y mettre un jugement avec notre vision d'aujourd'hui, mais le but d'antan n'était pas forcément de nuire.
Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça va même, les mutilations génitales féminines vont à l'encontre des droits humains.
Mais bien évidemment, aujourd'hui, maintenant, on a des connaissances qui sont, j'ai envie de dire, plus importantes, et ça nous permet de comprendre que c'est un acte barbare aujourd'hui. Mais ce n'en était pas forcément un il y a je ne sais combien d'années.
Et là, ça revient un peu à l'intention, l'objectif derrière aussi, qui peut être du coup, si c'est pour ôter le plaisir, créer des souffrances. Si c'est dans une autre visée, même si c'est peut-être la même mutilation, alors du coup, ce n'est pas appelé mutilation, mais on ôte quelque chose, peut-être que ça peut être vécu différemment. Ouais.
Exactement.
Mais aujourd'hui, voilà, effectivement, on les condamne et on essaye de les éradiquer, quoi.
Et du coup, quand je parle de décoloniser la sexualité, je m'intéresse aussi à l'évolution de cette pratique. Par exemple, l'excision d'antan n'avait pas le même but. Cependant, à cette époque-là, nos sociétés en Afrique n'étaient pas patriarcales.
J'allais te poser la question.
Matriarcales, exactement, matriarcales et matrilinéaires. S'en sont suivis des épisodes successifs d'esclavage, de colonisation, des influences religieuses aussi. Et de ce fait-là, la société s'est peu à peu transformée en une société patriarcale. Et en effet, aujourd'hui, on peut se dire que cette pratique vise à ôter le plaisir de la femme.
Parce qu'on est sous le joug du patriarcat, quoi.
Exactement, tout à fait. Donc, les esclavages, les colonisations ont eu aussi un impact sur l'évolution de la place de la femme, de la sexualité, du féminin, etc.
Super intéressant. Et toi, du coup, tu disais, tu as hérité de ces bagages-là. Donc, quel est l'impact pour toi et pour les femmes que tu accompagnes aussi ?
Aujourd'hui, en tant que femme noire, il y a très peu de transmission. On ne va pas se mentir. Rares sont les familles où il y a une transmission, c'est-à-dire où il y a un groupe de femmes généralement plus âgées, matures, qui ont vécu, qui viennent enseigner les jeunes filles en âge, j'ai envie de dire, un peu comme les initiations d'avant, justement, qui arrivent à la puberté, pour ne serait-ce que parler des menstruations, ne serait-ce que pour parler de leur corps, de leur anatomie. Ça ne se fait plus. Donc, la plupart des femmes de ma génération, et j'ai envie de dire un peu de ma culture, bien que l'Afrique est plurielle, hein, il y a 54 pays en Afrique, je ne sais combien de milliers d'ethnies, donc forcément il y a plusieurs, j'ai envie de dire, influences, mais généralement les femmes noires arrivent dans la sexualité sans bagages. Si ce n'est des a priori ou des choses qu'elles ont découvertes auprès de leurs copines ou à l'école.
Et souvent des discours, des fois des discours effrayants aussi de ce qui a été transmis en fait.
Mais bien évidemment. Et là, j'en parle pour la sexualité, mais c'est pareil pour la maternité. Moi, je me souviens, je suis entrée dans la maternité, j'y connaissais absolument rien. Enfantée, je ne savais pas ce que c'était. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, bien que je suis la fille d'une ancienne sage-femme.
Donc cette transmission n'a pas été passée non plus.
Il y a eu de la transmission. J'ai envie de dire, je ne suis pas la plus à plaindre, et pourtant j'estime que je n'avais pas assez en termes de connaissances.
Et à toi, selon ton avis, qu'est-ce qui... Alors tu en as parlé, hein, avec la colonisation, cette transmission s'est arrêtée. Et aujourd'hui, pour toi, quels sont les obstacles ou qu'est-ce qui fait que cette transmission Alors, on voit bien que maintenant, aujourd'hui, on essaye de plus en plus hein, de pouvoir transmettre parce qu'on sait que voilà, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, on essaye de redonner le pouvoir. C'est ce que tu essayes de faire dans tes accompagnements. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore difficile, à ton avis ?
On avance encore dans le féminin et dans la sexualité avec un prisme blanc. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui me ressemblent ne se reconnaissent pas dans ce qui est, dans ce qui est vulgarisé. Et là, je parle dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, il y a plein de connaissances qui sont vulgarisées, qui sont démultipliées, et c'est tant mieux. Sauf que nous, femmes noires, on ne se reconnaît pas forcément dans tout ça. C'est-à-dire, nous, mine de rien, même si la transmission ne s'est plus faite, il y a un bagage dont on a hérité de nos aïeuls. Et il est parfois difficile de tourner pleinement le dos à nos cultures. C'est-à-dire, nos mères ont fait d'une telle façon. Alors oui, nous, on est la génération qui remet tout en question. Moi, j'ai vu ma mère faire certaines choses. Je ne fais pas pareil pour tout. J'ai vu ma grand-mère vivre certaines choses. Je ne vis pas les mêmes choses parce que j'ai décidé. Mais j'ai regardé ça en face et j'ai décidé que je voulais faire autrement. Sauf que je ne tourne pas le dos à la façon dont elles ont vécu. Je légitime aussi leur choix, ce qu'elles ont subi aussi. Je sais que certaines femmes dans nos lignées, par exemple, ont été violentées, violées, tuées. À certaines femmes, on a enlevé leurs enfants. À certaines femmes, on a forcé d'allaiter des bébés blancs, tout simplement, et qu'elles n'allaitaient pas leurs propres enfants. Ce sont des choses dont on a hérité. Et aujourd'hui, je ne veux pas renier pleinement tout ça. Je veux m'en servir justement pour que ça me permette d'aller plus loin, de transmettre autre chose à mes enfants.
Oui, de pas renier, parce que comme tu dis, c'est un bagage, ça permet une meilleure compréhension aussi de la personne. Et tu disais aussi, c'est vrai, l'accompagnement, là, si je parle de l'accompagnement en sexologie, il est souvent vu sous le prisme occidental parce que il y a une majorité de sexologues blancs, comme moi, qui prennent cette place-là et qui ne peuvent pas forcément comprendre tout ce que des personnes noires ont pu vivre et ce bagage qui est impliqué par la colonisation, par les violences, par tout ce vécu-là. Et c'est important qu'il y ait des sexologues, qu'il y ait des doulas, des sages-femmes noires pour pouvoir encore mieux accompagner les personnes noires.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans mes accompagnements, je fais un peu... j'ai envie de dire d'ethno-accompagnement, dans le sens où je m'adapte à la personne qu'il y a en face de moi. Imaginons, alors moi je viens d'une culture malgache, imaginons que j'accompagne quelqu'un qui vient de Madagascar, je sais à peu près comment ça se passe dans nos familles. Je sais la femme, je sais la place que la femme peut occuper.
Est-ce que tu peux nous dire je un petit généralement... peu ouais, des exemples ?
Eh bien, par exemple, chez les malgaches, on a une... La place de la femme est très importante. C'est elle qui, bien qu'elle soit, elle ne soit pas forcément celle qui brille au devant, c'est elle qui décide. C'est, j'ai envie de dire, c'est un peu les traces du matriarcat qui est resté. Et du coup, je sais quelles répercussions ça peut avoir chez des adultes de mon âge, par exemple. Je sais que généralement, je vais un peu grossir les traits aussi, mais généralement, un homme d'origine malgache de mon âge a un sens du prendre soin de l'autre qui est très important. Et beaucoup d'hommes malgaches vont arriver dans la sexualité en étant très soucieux de ce que vit et veut la femme, un peu en se plaçant en dessous.
Et qu'est-ce que ça a du coup comme conséquence, ça, justement, de prendre soin justement de la sexualité de la femme ? Qu'est-ce que tu peux voir du coup pour ces femmes-là ? Et puis pour ces hommes-là qui se placent en dessous, du coup, quel impact ça a sur leur sexualité ?
Chez la femme, ça peut avoir les répercussions qu'elle doit garder une bonne image. La petite femme sage, la grande femme sage.
La grande femme sage, la good girl, voilà.
Exactement, bien sous tout rapport. La religion a aussi une place très importante dans notre culture. Et de ce fait-là, il faut garder bonne figure. Et ne pas, là je vais grossir encore une fois les traits, mais ne pas être comment on appelle ça ? Ne pas embrasser la place de la maîtresse, mais plus celle de la femme et de la mère de famille, chez les femmes. Alors que chez les hommes, ça va être ne pas oser certaines choses, parce que quelle va être la réaction de la femme qui, nous, dans nos lignées, on a eu des reines. On ne demande pas n'importe quoi à une reine.
On la respecte.
Exactement. On a une certaine dévotion, une certaine révérence, et on n'impose pas à une reine de descendre de son piédestal. On ne la salit pas.
Oui, donc elle est sacrée. Mais alors, du coup, quel impact ça a sur la sexualité? Parce qu'on en parle un peu de ce complexe de la madone et de la putain. Où la madone, c'est un petit peu là, cette reine intouchable, qui est sacrée, donc qui n'a pas forcément du coup de sexualité, parce que la sexualité, on va l'associer à quelque chose de sacré. Versus la madone, bon, bah, c'est quelqu'un peut-être un peu moins respectueuse, dans le sens où, en fait, la sexualité, on peut avoir toute la sexualité qu'on veut avec cette personne-là, et c'est une personne qui est sexualisée, sexuelle, etc.
Exactement. Et c'est une place que, parfois, une femme d'origine malgache peut avoir du mal à emprunter. Et un homme n'osera pas la mettre dans cette situation-là.
Et est-ce qu'en soi, du coup, ils sont un petit peu tous les deux alignés sur ça, finalement? Est-ce que ça pose des difficultés, du coup, dans la sexualité?
Ça peut. Alors, ça peut être bien vécu à partir du moment où, j'ai envie de dire, où c'est conscientisé. Et c'est la façon dont le couple fonctionne. Et c'est OK. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des brassages de cultures. Des cultures différentes qui se rencontrent. Et on peut arriver, par exemple, imaginons une femme d'origine française face à un homme, par exemple, d'origine malgache. Et là, il y a deux paradigmes qui sont complètement différents. Sauf qu'au moment où ils se rencontrent, il peut y avoir des problématiques d'ordre sexuel qui se mettent en place. Et prendre conscience de cela en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, c'est aussi oser pointer du doigt cet aspect-là et aller questionner la personne qu'on accompagne sur sa vision du monde, son paradigme, afin de lui poser la question simplement, est-ce que ça continue d'être utile pour vous ou est-ce que vous voulez changer, évoluer? Tout est OK.
Oui, là, on revient vraiment sur les valeurs et la vision de la sexualité. Et à la question, est-ce que vous voudriez changer? Des fois aussi, ça prend du coup sous justement ce prisme de... Bah, c'est un peu le choc des cultures. Peut-être que cette personne est dans une nouvelle culture. Elle veut peut-être s'y intégrer. Et pour s'y intégrer, ça passe par cette sexualité qui est vulgarisée dans le sens... On démocratise, on en parle de plus en plus. C'est l'abondance, il faut essayer plein de choses, etc. Et donc, ça peut être aussi très difficile de dire, est-ce que c'est parce qu'il y a cette pression sociétale, culturelle, ou est-ce que parce que vraiment j'en ai envie?
Voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait qu'il faut garder en tête en tant que thérapeute, dans le sens où je sais qu'avec certaines cultures, je ne vais pas parler de sexualité de la même façon. Il y a des cultures qui sont plus ouvertes, qui peuvent, essayer certaines choses, que d'autres vont avoir plus de difficultés à faire. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont plus coincés ou moins ouverts. C'est simplement que ce n'est pas ce dont ils ont hérité, enfant, adolescent, et puis en devenant adulte. Et en fait, c'est pouvoir proposer, une palette d'ouverture, de portes, que chacun est en droit d'ouvrir ou non.
Et sur ton site internet Psychosexo Doula, tu dis accompagner les femmes vers une vie sereine en les reconnectant à leur pouvoir de guérison. Qui sont les femmes qui viennent te voir et pourquoi elles viennent te voir?
J'ai envie de dire, j'ai des femmes de partout, c'est-à-dire de tout milieu. Je peux avoir des blanches, des noires. Alors oui, c'est vrai, j'attire dans mon cabinet pas mal de femmes noires. Peut-être parce qu'elles se reconnaissent aussi dans la façon dont j'aborde les choses. Et aussi, physiquement, on ne va pas se mentir, culturellement. Et j'ai des femmes également d'autres cultures. J'ai des femmes qui ont des problématiques particulières. Je reçois pas mal de femmes qui ont vécu du vaginisme.
Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est le vaginisme?
Oui. Alors, le vaginisme, en fait, c'est une contraction involontaire et totalement incontrôlable, de tout ce qui est, j'ai envie de dire, périnée, de tout ce qui est sphère intime, et qui empêche la pénétration, et toute pénétration. Ça peut être un tampon, d'ordre sexuel, etc.
Alors des fois, ça peut être possible de mettre un tampon, mais des fois, c'est le pénis qui, où là,
tout
c'est impossible
fait.
Aussi.
Exactement, ça dépend. Et également, les examens d'ordre gynécologique. Ouais. Pour certaines femmes. Et j'ai envie de dire, chaque récit est différent, chaque vécu est différent. Et lorsque ces femmes viennent dans mon cabinet, bien évidemment, avant cela, elles ont, j'ai envie de dire, exploré si d'un point de vue anatomique, médical, tout se passe bien. Moi, je vais plus intervenir sur tout ce qui est d'ordre psycho-émotionnel.
Qui est très important, en fait, dans la prise en charge
aussi. Exactement, mais bien évidemment, bien évidemment. Et du coup, on va explorer l'histoire d'une personne, les représentations qu'elle se fait aussi de ce qui est pénétration, de ce qui est sexualité, de son rapport à son propre corps, etc. Pour ensuite cheminer, j'ai envie de dire... doucement, à son rythme, vers une ouverture.
Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport aux représentations, et souvent dans le cadre du vaginisme, on peut voir des femmes qui pensent que leur vagin, c'est un trou, même quelque chose de fermé, ou que le pénis est ultra gros comparé au vagin, que ça ne peut pas rentrer. Tu penses que ces représentations-là, ouais. elles viennent d'où ?
Elles sont multiples. Elles sont d'origine multiple, dans le sens où il y a déjà un manque d'éducation.
On revient à la transmission.
Pour certaines. Exactement, tout à fait. Ne serait-ce que comprendre son propre corps à soi, sans même connaître le corps de l'autre, mais déjà son propre corps. Rares sont les femmes qui, parfois, se regardent dans un miroir.
Oui, parce qu'il faut prendre un miroir pour se voir, c'est déjà aussi une chose, c'est une action voulue, vraiment, parce qu'on ne peut pas juste, oups, j'ai vu mon vagin, ma vulve comme ça, non, il faut vraiment une attention de... Si j'ai envie de la voir, il faut prendre un miroir et j'observe ma vulve et je vois ce qu'il en est. Mais c'est une intention et une action qui est nécessaire.
Tout à fait. Et bien souvent, on arrive juste avec ce qu'on a appris en cours de SVT au collège, etc. J'ai envie de dire au collège, déjà, on n'est pas ouvert, entouré de ses camarades, à aborder ces sujets-là, pour certaines personnes. Et ensuite, il y a aussi un héritage post-colonial, on va pas se mentir. Il y a une représentation, et là je vais parler plus pour les personnes noires, il y a une sexualisation des corps noirs. Déjà, que ce soit le corps de la femme ou le corps de l'homme. N'oublions pas, il y a eu un temps où il y avait des zoos humains. Ça existait à Paris, au jardin d'acclimatation. Par exemple.
En plein milieu de la ville et des personnes, voilà, c'était souvent le fessier qui était représenté parce que plus gros que celui des femmes blanches et donc c'était vu comme quelque chose d'exotique.
Exactement. Il y a eu aussi un moment où on exposait les parties génitales des femmes noires. Il y a par exemple l'histoire de Sarche Bartman, la Vénus Hottentote. Chez les Hottentotes, en fait, les lèvres internes étaient proéminentes.
Donc elles dépassaient vraiment du sexe.
Exactement. Sauf qu'à cette période-là, apparemment, il était peu connu que les lèvres internes puissent dépasser les lèvres externes. Et de ce fait-là, cette femme a été exposée, a été aussi abusée sexuellement exploité à cause de ses attributs génitaux.
Qui sont tout à fait normaux, on le rappelle.
Exactement, exactement. Et les hommes aussi, les hommes noirs, il y a cette représentation dans la psyché collective que les hommes noirs ont des parties, des parties génitales énormes, plus grandes que la norme. Et de ce fait-là, on arrive avec tout ça dans notre, j'ai envie de dire, dans notre imaginaire. Certaines femmes arrivent avec ça dans la sexualité. Et du coup, ont des représentations de « je dois avoir des petites lèvres, mon vagin doit être petit, étroit », parce qu'il y a ça aussi. Dans certaines cultures, il faut avoir un vagin étroit pour le plaisir de l'homme, etc. etc. Sauf que, par exemple, si je suis en couple avec un homme noir, et ben lui, forcément, il aura un gros pénis, ben je peux pas. Donc, il y a quelque chose qui se joue
dans le vocabulaire et dans aussi anatomiquement comment on fonctionne. Parce que même si, ok, le pénis peut être beaucoup plus gros, enfin peut être gros, le vagin en fait c'est élastique aussi et peut s'adapter.
Exactement.
Et ça, on ne sait pas forcément non plus, il n'y a pas d'éducation sexuelle.
Non, ça c'est des choses dont on parle très peu. Voire pas du tout. Alors déjà, si dans une famille, il y a une transmission concernant ne serait-ce que son propre sexe à soi, c'est déjà bien. On a déjà avancé. Mais alors, concernant le sexe, du sexe masculin,
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y a encore moins de transmission. Et donc, les hommes, les femmes arrivent avec ces manquements-là, parfois, dans une vie sexuelle. Et ça peut être pénalisant.
Ouais, donc tu parlais du fait que voilà, elles peuvent venir justement pour déjà parce qu'il y a du vaginisme, elles peuvent venir parce qu'elles veulent peut-être se réapproprier leur corps ou apprendre comment fonctionne leur corps, découvrir leur sexualité aussi, j'imagine, se libérer Exactement. Peut-être aussi de traumas ou de bagages, comme tu parlais aussi au début.
Oui, oui. Certaines aussi que j'ai rencontrées ont été excisées dans le passé. Oui. Certaines ont fait ce qu'on appelle une reconstruction, mais il reste le trauma d'un point de vue psychique. Et c'est sur ça que je vais accompagner.
Ok, est-ce que tu peux du coup nous dire un petit peu quel est l'impact justement de ce que tu vois toi dans ta pratique, l'impact des excisions sur la sexualité et le corps des femmes ?
Sur le corps d'une femme, clairement, cette partie-là, en fait, ça devient une zone de guerre. C'est une zone de souffrance, même s'il y a eu réparation d'un point de vue anatomique. Et ça nécessite obligatoirement, j'ai envie de dire, et c'est ce qui est mis en avant par exemple par le docteur Pierre Foldès aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui est un précurseur en termes de réparation anatomique pour les femmes qui ont été excisées dans le passé. Il le met bien en avant, il explique que ça nécessite un accompagnement d'un point de vue psychologique réappropriation de son corps, de son schéma corporel.
Oui, parce qu'il ne suffit pas juste... Alors, la réparation, tu seras mieux expliqué que moi, mais en fait, le clitoris, souvent, ce qu'on va exciser, c'est la partie externe, c'est le ouais. gland. Et puis, en fait, le clitoris, ouais. il y a toute une partie interne. Et donc, dans la réparation, on va venir tirer pour faire ressortir le clitoris un petit
Tout
peu. Donc,
fait.
Le clitoris est toujours là et donc le plaisir est toujours possible. Mais ce n'est pas parce qu'il y a réparation qu'il y a vraiment intégration, comme tu disais, de cette conscience-là. Et peut-être du plaisir aussi, du coup.
Oui, parce que certaines femmes vont se l'interdire, plus ou moins consciemment. Ça peut se faire totalement inconsciemment. Elles vont se l'interdire parce que c'est une zone qu'on a mis pleinement au sommeil, dans le sens où ça a été une zone où il y a eu un trauma. On est venu, j'ai envie de dire, forcer cette zone.
Lui arracher cette zone.
Et... Exactement. Et pour certaines, parce que toutes les excisions ne se ressemblent pas, aujourd'hui, on catégorise les excisions. Et j'ai envie de dire que même cette catégorisation, dans les faits, n'est pas totalement et pleinement réaliste. Parce que une même excision, faite de la même façon, chez deux femmes différentes, La cicatrisation ne va pas se faire pareil. Et de ce fait-là, l'impact et l'aspect, j'ai envie de dire, physique, ne sera pas le même. Et ça, c'est une chose qu'on parfois, on a tendance à oublier.
Oui, on va tout de suite catégoriser avec les quatre catégories. Hein, c'est ça, il y a quatre catégories. Et pourtant, on peut être dans la même catégorie et pas avoir le même ressenti. Et tout ça dépend de plein de facteurs, j'imagine.
Tout à fait, exactement. Donc, j'ai envie de dire, chaque personne étant unique, ce qu'elle a subi étant unique, ça nécessite une prise en charge qui est unique. Voilà, ça c'est important de le dire. Et chaque femme aussi, et là j'en reviens à décoloniser tout ce qui est sexualité, chaque femme a un vécu différent concernant son excision. Il y a certaines femmes, et on en parle très peu, c'est devenu un sujet tabou parce que pour certaines femmes ça dessert la cause, je peux l'entendre, je ne partage pas cet avis, certaines femmes n'ont pas eu que des répercussions néfastes et dramatiques de l'excision. Il y a des femmes qui ont été excisées, et c'est généralement en plus des femmes d'Afrique de l'Est, plutôt que de l'Afrique de l'Ouest, ont été excisées et ont encore du plaisir dans leur sexualité. Et ça, c'est une chose qu'on n'ose pas dire. J'ai même lu certains récits, le récit d'une femme qui expliquait qu'elle a voulu en parler lors d'un groupe de femmes, d'un cercle, et qu'on le lui a interdit dans le sens où ça pouvait pénaliser la cause de combat contre l'excision. Et ça, moi, j'ai du mal à l'entendre, parce qu'on a invalidé son récit.
Invalidé et invisibilisé ce qu'elle peut vivre. Et c'est vrai que dans les réparations, quand on propose automatiquement presque réparation, je dis quand même, attention, écoutons si la femme en a envie, parce que pour elle, elle peut aussi, même si ça peut être douloureux à entendre, mais elle peut être très bien dans cette excision, parce que ça lui apporte quand même aussi des choses, et elle voit pas forcément des bénéfices à se faire réparer, entre guillemets.
Tout à fait, tout à fait. La réparation ne doit pas être systématique, et j'ai envie de dire, d'ailleurs, les chirurgiens qui proposent cet acte, généralement, vont faire un peu avec la patiente une balance bénéfice-risque. Parce que à une intervention chirurgicale, ne l'oublions pas, il y a toujours des potentiels risques. Et il faut les prendre en compte dans le sens où s'il y a plus à perdre qu'à y gagner, ça mérite, j'ai envie de dire, une vision claire de la chose pour pouvoir faire un choix éclairé. Et ça, c'est important.
Ouais, c'est bien de le dire et de le rappeler. Et du coup, alors, quels peuvent être les impacts que tu vois justement de l'excision quand là, on va dire justement, ça a ôté le plaisir et que c'est difficile de pouvoir profiter pleinement de sa sexualité, que ce soit seul ou avec son ou sa partenaire?
Alors déjà, il y a le fait de mettre cette zone en silence total, c'est-à-dire c'est une zone qui devient inaccessible de soi à soi, mais également avec l'autre. Il y a aussi certaines femmes qui vont quand même entrer dans une sexualité parce que les diktats, déjà, le fait d'avoir envie de vouloir des enfants, de se marier, la pression sociale, etc., la pression conjugale, mais ça va être très douloureux. Et pour certaines femmes, eh ben, à chaque relation sexuelle, on ravive le souvenir de ce traumatisme premier. Il y a certaines femmes, elles ont une colère monstre et elle est légitime, j'ai envie de dire toutes les colères sont légitimes, elles ont une colère monstre contre soit leur mère, soit les femmes qui leur ont infligé ça. Et certaines femmes, non, elles n'en veulent absolument pas à leur mère, elles en veulent à la société qui a inculqué ça, elles en veulent parfois aux hommes, chaque récit est différent. Mais chacune arrive avec son bagage et ce qu'il est important de faire, moi je n'arrive pas avec d'idées préconçues. Lorsqu'une femme me dit j'ai été excisée, ok, en fait comment le vivez-vous? Comment ça se traduit au quotidien pour vous? Parce qu'on peut avoir une vision, j'ai envie de dire très occidentale, et se dire l'excision c'est mal, c'est une mutilation, c'est un acte barbare, oh pauvre de vous, je vous plains, votre mère a été horrible de vous faire ça. Et bien dans ce cas-là, on risque de ne pas ouvrir pleinement la porte à la femme qu'on a en soi. Parce que pour certaines femmes, ce n'est pas vécu de cette façon-là, et il faut l'entendre. Mmh.
Oui, et du coup se dire, eh ben voici la solution, c'est la réparation, il faut passer par la réparation. Et là encore, c'est peut-être sous le prisme occidental de proposer ça, alors que, comme tu dis, il faut avoir une position de, voilà, d'accueil de la parole, de comment la personne vit les choses et ce qu'elle souhaite avant de faire déjà, il ne faut jamais se projeter, mais de faire des propositions qui ne sont pas adaptées à la personne.
Tout à fait, exactement, c'est ça. Donc, moi, bon, ma position, c'est vraiment à chaque fois d'être dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil inconditionnel, et de ne pas avoir d'idées préconçues. Je ne sais pas quel impact telle ou telle chose a eu pour vous. Je ne sais pas. C'est à vous de me le faire entendre et à moi de l'intégrer pleinement et de vous accompagner avec ce que vous m'amenez en consultation.
Super. Et ce pouvoir de guérison, comment elles peuvent y accéder ? Alors bien sûr, hein, tu as plein d'outils, c'est un accompagnement et donc voilà, mais en quelques mots même, très résumé. Hein.
Déjà, c'est se reconnecter à soi, à ce que je ressens, à ce que je souhaite, ce que je désire. Et ça, pour certaines femmes, c'est très compliqué. Qu'est-ce que je désire ? Peu le savent. Et c'est aussi à ce que j'aimerais par la suite. En fait, aujourd'hui, j'arrive avec telle problématique. C'est ce dont je ne veux plus. Ou c'est ce que je veux voir évoluer. Ok, mais on va vers quoi ? Moi, je n'ai pas d'objectif à vous donner. C'est-à-dire, je ne vous dis pas il faut aller vers ça pour être pleinement épanoui dans votre sexualité, pour vous guérir, pour réparer vos traumas, etc. C'est ça le chemin. Non, je n'en sais rien. Je vais proposer certaines portes, je vais les présenter et à la personne de voir ce qui est confortable pour elle ou non. Et d'aller explorer cela. Et quand je parle de pouvoir de guérison, là j'en reviens toujours à décoloniser la sexualité, c'est que en Occident, on théorise les choses. C'est-à-dire, généralement, on émet une théorie et la science vient confirmer cette théorie. C'est comme ça que ça marche en Occident. Sauf que dans certains coins du monde, ça ne marche pas comme ça. C'est on expérimente la chose, on voit ce qu'elle produit. Dans certains coins d'Afrique, par exemple, on voit ce qu'elle produit et on la perpétue. Et en plus, on la démultiplie, non pas en la théorisant et en l'écrivant, mais par tradition orale. Voilà comment il y a certains processus de guérison qui ont été, j'ai envie de dire, enseignés oralement dans le passé, qui ont été délégitimés lors de la colonisation, diabolisés. On disait au peuple africain, c'est de la sorcellerie votre truc, vous arrêtez tout de suite, vous devez faire autrement, c'est nous on a des médecins, on a ça, et c'est nous qui commandons. Voilà ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, en Occident, il y a certaines pratiques qui se font qui ressemblent étrangement à ce qui se faisait en Afrique dans le passé, et qui se fait encore dans les villages. Je donne l'exemple, par exemple, des tremblements. Il y a une thérapie qui s'appelle la TRE. C'est une technique où on va trembler, on va amener la personne accompagnée à effectuer des tremblements en ressassant un peu ses traumas, etc., pour s'en débarrasser, pour évacuer, exactement. Eh bien, dans certaines tribus d'Afrique, il va y avoir la danse, les femmes en Afrique sont connues pour leur roulement de bassin. La zone du bassin, c'est une zone qui bouge beaucoup en Afrique. Dans tous les coins d'Afrique, le bassin est très engagé chez les femmes. Et c'est des danses qui s'opèrent beaucoup entre femmes. L'occidental va voir ça d'un œil, j'ai envie de dire, en sexualisant, alors qu'en Afrique, ce n'est pas forcément sexualisant.
Comme le twerking, hein, par exemple, aussi. Alors, le twerking, peut-être que je me trompe, je ne sais pas si ça vient d'Afrique, mais enfin, le twerking, maintenant, a été repris en Occident et sexualisé comme une danse sexuelle, alors qu'à la base, c'est quelque chose pour la fertilité, si je me souviens bien.
Exactement. En Afrique, il y a des danses de la fertilité. Et aujourd'hui, moi-même, en tant que doula, j'invite les femmes à mobiliser leur bassin. Mais c'est des choses qui existent dans d'autres cultures, sauf qu'elles avaient été diabolisées. Certaines danses, par exemple chez les Maasai, ils sautent beaucoup, etc. C'est des choses qui, ça permet en fait d'évacuer. Et il y a la parole, il y a des chants en même temps. Des cris, on traitait, excuse-moi de le dire, mais on traitait les Africains de sauvages lorsqu'ils faisaient ça. Sauf qu'aujourd'hui, on théorise ces choses en Occident pour les démultiplier à visée thérapeutique.
C'est dingue, et oui, parce que maintenant, il y a beaucoup, effectivement, par rapport au trauma, il faut bouger le corps, il faut se secouer, etc. Oui. Alors que, comme tu dis, vu sous le prisme d'une personne en Occident qui voit justement, comme tu disais, ces cercles de femmes, ou se secouer, ou secouer de partout, et de se dire, mais c'est de l'exorcisme, alors qu'aujourd'hui, on le propose et on le valide scientifiquement. Et tu disais quelque chose, on revient un petit peu sur la transmission, en fait, la transmission a peut-être été perdue justement pour les peuples africains, parce qu'il n'y a plus cette transmission orale qui leur parle plus que cette transmission écrite par les Occidents.
Oui, exactement.
Et donc, il faudrait que cette transmission orale puisse revenir, se réapproprier, et ça, je ne sais pas de quelle manière. En laissant la parole, en validant.
Exactement, c'est ça. C'est ça. Et c'est en permettant et en validant, en légitimant, des cercles en non-mixité. Ça, c'est quelque chose qui, en France, est très péjorativement vu. Dans le sens où on le perçoit comme de l'entre-soi, comme... comment on appelle ça j'ai plus le terme en tête, mais en gros, un peu comme on n'accepte pas l'autre. Sauf qu'on a besoin d'espace où l'on se répare, où on regarde aussi nos propres cultures, parce que dans nos cultures, il y a eu des choses bien, mais il y a eu des choses aussi moins bien. Mais pour pouvoir les regarder en face, il faut pleinement prendre conscience de ce qui a été fait dans le passé. Et ça... Mais parfois, on a besoin que ce soit fait en non-mixité.
Et là, quand tu dis non-mixité, c'est-à-dire entre femmes, mais entre femmes de même culture ou pas forcément ?
Oui. Oui. Parfois, entre femmes noires. Alors, moi, je parle pour des femmes de culture afro-descendante, mais ça peut être pareil pour des femmes d'Amérique latine et ça peut être pareil pour, je sais pas, des femmes d'Océanie, etc. Mais il y a eu des traumas, il y a eu une histoire et prendre conscience de l'histoire qu'il y a eu, ce n'est pas rejeter l'autre ou le diaboliser. C'est simplement accepter que le passé a eu une influence sur le présent et en aura une aussi sur le futur. Sauf que tant qu'on n'acceptera pas de, entre guillemets, je vais utiliser un terme pas forcément joli, mais de mettre, entre guillemets, le nez dans notre caca, eh ben, on ne pourra pas en sortir. On continuera de se transmettre ces mêmes traumas dans nos lignées, alors que, désolée, moi, de base, l'esclavage, je n'ai pas vécu. La colonisation, je ne l'ai pas vécu. Donc, il est temps que tous ces traumas-là soient, entre guillemets, pleinement explorés et qu'on puisse les évacuer pour pouvoir construire quelque chose de nouveau.
Ouais. Ça donne des frissons. Oui, et ça permet ça aussi, ces cercles en non-mixité de même culture, c'est au lieu de perdre son temps des fois à expliquer le vécu, argumenter, parce qu'en face, il y aura toujours des personnes pour dire « mais non, c'est pas vrai » ou « c'était pas comme ça », etc. À perdre de l'énergie, on se concentre déjà sur soi, effectivement, cette guérison-là qui est importante, comme tu dis, pour se débarrasser de bagages qui sont transgénérationnels et qui n'appartiennent plus forcément à la personne, pour pouvoir avancer vers vraiment ce qu'elle a envie en se débarrassant de tous ces traumas qui ne lui appartiennent pas ou qui font peut-être partie de son vécu, mais dont elle a envie de se débarrasser aussi.
Oui. Parfois, ça peut être difficile. Alors, moi, je sais que j'aime bien transmettre, y compris à des gens qui ne sont pas de ma culture. Mais c'est de l'énergie. Je ne vais pas mentir, c'est de l'énergie de toujours argumenter, d'expliquer. Alors, parfois, moi, je démultiplie, je transmets et ensuite, je ne parle plus. C'est-à-dire, je n'argumente pas, je ne suis pas dans un débat. Je donne des informations qui peuvent, à mon sens, être utiles pour des gens qui ne sont pas issus de ma culture, parce que, par exemple, toi, Camille, tu vas aussi accompagner des femmes noires, tu vas accompagner des femmes d'origine maghrébine, etc., etc. Et peut-être que ces éléments d'histoire ou ces éléments de langage peuvent être utiles.
Tout à fait.
Pour toi et pour les personnes que tu accompagnes. Par contre, je ne suis pas dans le débat. Si pour toi, ça ne fait pas sens, c'est OK, ça t'appartient, mais je n'irai pas tergiverser pendant des heures pour essayer de te faire comprendre que ça, je n'y mets plus d'énergie. Je l'ai fait dans le passé et en fait, ça a été ça m'a énormément fatiguée.
Oui, il vaut mieux te concentrer sur justement ce que tu peux faire, ton pouvoir en fait, d'agir.
Exactement.
Et d'ailleurs, ouais. Du coup, merci pour ton temps parce que je pense que ça va beaucoup apporter. Alors là, tu as fait de l'éducation et des fois aussi, il y a toute cette question de est-ce que bah, justement les personnes noires doivent éduquer les personnes blanches par rapport à ça ? Aujourd'hui, tu l'as fait un peu, donc merci pour ça et justement, ça permettra peut-être, dès qu'il y a des personnes qui nous poseront des questions là-dessus, de renvoyer vers le podcast, comme ça, tu peux te libérer ce temps-là.
Oui.
Mais du coup, je voulais te demander en dernière question, et là, peut-être spécifiquement, peut-être aux personnes afro-descendantes, si elles devaient retenir qu'une chose, parce que tu adores transmettre et voilà, cette transmission revient toujours à ça. Si elles devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou et de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent pour avoir ce pouvoir sur leur vie sexuelle ?
Premièrement, je parlerais de reconnexion à soi. Mais d'un point de vue général, et là je ne vais pas uniquement parler de sexualité, c'est à soi. Qui suis-je ? Déjà c'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour beaucoup de personnes, quelle que soit la culture. Qui suis-je ? C'est compliqué déjà. Donc qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Je suis obligée de regarder vers le passé pour ensuite aller vers le futur. Donc d'où est-ce que je viens ? De quoi est-ce que j'hérite ? Ok. Me poser la question, est-ce que ça, j'en veux encore ou pas ? Est-ce que cela m'est utile ? Moi, il m'arrive de regarder avec beaucoup de tendresse et d'amour le passé de ma mère, de mes grands-mères, de mes arrière-grands-mères, etc., etc. Je vois les choses qu'elles ont vécues de bien et je m'en sers pleinement et j'en hérite et je les garde précieusement. Et je vois des choses qui n'étaient pas forcément utiles et qui les ont parfois desservies. Eh bien ça, je les remets en question. Déjà, j'analyse chez moi, est-ce que inconsciemment, je le reproduis ? Il y a des choses que oui, je reproduis. Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai envie de continuer de les reproduire ? Ah, peut-être pas. Ok. Je suis patiente envers moi-même. C'est-à-dire, je ne vais pas me faire violence. C'est difficile de se détacher de certaines choses. Nos cultures sont très riches. Il y a eu plein de belles choses, mais il y a eu aussi des choses moins belles. Et ces choses-là, ce n'est pas renier mes ancêtres, parce que en Afrique, de manière générale, les ancêtres, c'est très important. C'est ceux qui nous ont portés jusqu'ici, aujourd'hui. Mais ce n'est pas renier mes ancêtres de dire ça, j'ai pas envie. En fait, ça, c'était un de leurs bagages, j'ai envie de dire, qui pèse beaucoup trop lourd pour moi. Et en fait, ça, j'en veux pas. Il faut être patient et être, j'ai envie de dire, bienveillant envers soi-même pour oser dire, mais ça, en fait, j'arrête. C'est le passé et c'est fini pour moi. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants non plus. Et ensuite, c'est aussi de se reconnecter à soi physiquement, d'oser aller explorer les espaces de son corps qu'on ne connaît pas. Et bien évidemment, là je prends en compte toutes les cultures et tous les cultes, c'est-à-dire toutes les religions. Je ne parle pas forcément de masturbation, c'est d'aller se regarder avec quoi je suis à l'aise et avec quoi je ne suis pas à l'aise. Quelle partie de mon corps j'aime et quelle partie de mon corps je n'aime pas forcément. Et pourquoi ? Parce que parfois, on se rend compte que c'est des choses dont j'ai hérité. Ah, on m'a dit que ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sauf que, par exemple, dans la culture occidentale, il fut un temps, j'en reviens toujours à décoloniser la sexualité, il fut un temps, il fallait être filiforme, ne pas avoir trop de fesses, ne pas avoir trop de poitrine, pas de hanches trop visibles, etc. Il fut un temps. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a beaucoup de femmes qui vont faire appel à la chirurgie esthétique pour avoir des physiques un peu plus... avec des formes plus généreuses. Mais on voit bien que on est influencé par la culture dans laquelle on vit. Donc, pour des personnes qui sont d'ascendance étrangère, eh ben, y a plusieurs cultures qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que je prends chez une ? Qu'est-ce que je prends chez l'autre ?
l'appropriation, ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu, justement, qui est remise en question. Où commence l'appropriation? Qu'est-ce qui est OK de prendre dans une culture ou une autre? Quand on a des privilèges et qu'on s'approprie des choses d'une culture qui a été piétinée, est-ce que c'est OK? Ça soulève beaucoup d'autres questions aussi. Allez, une dernière question, enfin une ressource, si tu as un livre, une recommandation, un podcast à transmettre, c'est lequel, c'est quoi?
J'en aurais tellement, mais je vais essayer de me limiter. Pour ce qui concerne la sexualité, alors non, d'abord je vais partir du féminin. Pour ce qui est du féminin, pour les personnes, d'un point de vue général, il y a des podcasts, mais il y a le tien déjà.
Merci.
Mais j'ai envie de dire, alors il y en a un, c'est celui d'Axel qui s'appelle Me, Myself
and I.
Me, Myself and I. Pour les personnes afrodescendantes. En fait, Axel est une femme noire, féministe, qui aborde la sexualité avec son bagage à elle.
Génial.
Et qui va interroger des femmes noires concernant la culture d'où elles viennent et en même temps comment elles vivent leur sexualité, leur féminin aujourd'hui. Donc, je trouve que ce podcast est vraiment intéressant.
On mettra tout ça en note d'épisode pour les personnes qui se demandent. Okay. Voilà, comme ça, je réécrirai tout ça.
Ouais. Donc, ça, c'est une ressource qui est pas mal. J'aime bien aussi... alors, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais pour ouvrir son regard à d'autres points de vue d'ordre culturel, c'est Les enfants du bruit et de l'odeur.
Génial comme podcast, ouais, je le recommande.
Pour comprendre justement tout ce qui est racisme systémique et les conséquences que ça peut avoir, ben, du coup, sur nos enfants, mais en déduire également ce que les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui sur les adultes.
Merci.
Voilà.
Merci pour ces recommandations, je les mettrai. Et puis, je mettrai aussi en note d'épisode où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si des personnes ont envie de te contacter. Quel est l'endroit pour échanger avec toi le plus facilement possible?
Oui. Tout en sachant que bientôt, c'est, on va dire, dans les fourneaux, il y aura des moments de transmission et en physique et en visio pour justement aborder tout ce qui est intimité et sacralité. Voilà.
Merci. Donc,
j'en dis pas plus,
VIP.
Mais ce sera intéressant. Voilà.
VIP, tu sais quand ça sort ou pas?
Avant la fin d'année.
Avant la fin d'année.
Je travaille dessus, mais le temps me manque, on va dire. Mais avant la fin d'année, il y aura quelque chose.
Ok, donc quand vous écouterez cet épisode, tenez-vous, suivez les actualités de Daniel pour savoir tout ça. Daniel, un énorme merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis. Et j'espère que ce sera entendu, diffusé, partagé pour que ta parole puisse atteindre beaucoup, beaucoup de personnes et faire beaucoup de bien.
Merci à toi Camille, merci pour cet échange.
Merci, à bientôt Daniel.
À bientôt.
Waouh, quel échange avec Daniel. J'ai appris énormément, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi, j'espère que vous avez appris des choses, que ça a permis d'éveiller votre conscience par rapport à la décolonisation de la sexualité si c'était un terme que vous ne connaissiez pas. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à partager vos avis, vos commentaires sur votre plateforme d'écoute ou même sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe. Si vous êtes une marque de bien-être sexuel et que vous souhaitez sponsoriser un épisode, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail hello@camillebataillon.com. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode avec mes guests ou en solo. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.